Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour David Engels.
Oui, bonjour, très bon lundi Richard.
Merci, à vous aussi. Alors, l'opinion publique a rarement été aussi clivée, partagée dans tous les temps, tous les camps politiques. Voilà, Trump agonise le pape, la Russie évidemment est dressée contre l'Ukraine, les Israéliens contre les Palestiniens, les États-Unis contre l'Iran. Donc voilà, comment s'y retrouver ?
Alors, très honnêtement, je ne sais plus. Ou plutôt, tous ces débats politiques haineux, interminables, obsessionnels, hypocrites et sans aucun recul qui divisent, qui déchirent désormais notre propre camp politique, celui de la droite, sont devenus littéralement insupportables et d'autant plus empoisonnés que ceux qui le soutiennent sont de fait totalement dépourvus de véritable influence politique. Autrement dit, depuis des années, l'Europe est la grande absente de tous les grands développements politiques globaux et peu importe ce qui arrive dans le monde, on ne peut être sûr que d'une seule chose, c'est l'Europe qui payera et l'Europe qui en souffrira. Ainsi, en observant mes contemporains discuter de politique, je me sens constamment ramené à ces matchs de foot odieux, peuplés de gens incapables de courir 10 mètres sans crise d'asthme, mais prêts à en venir aux mains avec des inconnus, tout comme avec des proches, pour défendre leur équipe qui, elle, s'en fiche éperdument des supporters tant que le salaire reste mirobolant. Ainsi, du moins dans le monde germanophone, ces derniers mois, interagir avec autrui sur les réseaux sociaux dès qu'il s'agit d'autre chose que de poster des photos de resto ou de vacances est devenu tout simplement insupportable. Alors certes, cela fait des décennies que l'on se plaint que Facebook et Twitter, Instagram et TikTok détruisent la cohésion sociale plutôt que de la renforcer, en favorisant les dissensions, les extrêmes ou les disputes. Et c'est tout à fait vrai. Quand on étudie un peu les statistiques liées aux utilisateurs et aux opinions exprimées sur les réseaux, les extrêmes y sont nettement surreprésentés. Et ce, non seulement parce que des gens normaux ne passent pas leur journée à troller des inconnus, juste parce qu'ils ont des positions politiques divergentes, mais aussi parce que les algorithmes favorisent très clairement des profils à la fois extrêmes, voire extrémistes, et monothématiques. Bien évidemment, le rôle de plus en plus écrasant que joue l'intelligence artificielle dans la création de posts, tout comme dans la gestion d'innombrables faux profils, suggère des effets de masse là où, dans le monde réel, il n'y en a pas, et a encore radicalisé les tendances problématiques dont on vient de parler. Mais je trouve que ces derniers mois, le climat est devenu particulièrement empoisonné. Et ce, non seulement à cause du fonctionnement des réseaux, mais aussi de l'actualité politique, qui en est devenue de plus en plus inséparable. Parce qu'en effet, la montée au pouvoir de Donald Trump est un produit direct des réseaux sociaux et n'aurait probablement jamais pu se produire dans le monde de jadis. Et la même chose vaut bien évidemment aussi pour l'influence d'une extrême gauche écologiste de plus en plus radicalisée, et même pour l'islamisme. Qu'on le veuille ou non, les réseaux ont depuis longtemps cessé d'être de simples plateformes récréationnelles pour devenir, d'une certaine manière, le véritable forum politique, du moins dans le monde occidentalisé.
Alors, pour revenir à nos moutons, Trump et le pape.
Oui, tout à fait. Pardon, je m'égarais. Alors, justement, c'est un bel exemple que, dans le débat public, ce nouveau forum virtuel est devenu totalement incontrôlable de part et d'autre. Le pape, en appelle-t-il à la paix au Proche-Orient et à moins de haine entre les différentes religions? On lui reprochera d'être du côté de l'islam, que dis-je, du terrorisme. On en fera un agent secret des forces obscures voulant éradiquer le christianisme de l'intérieur. On prétendra même que le pape, comme tous les grands personnages de ce monde, à ce qu'il paraît, aurait subi une opération chirurgicale pour changer de sexe. Et on fera de Donald Trump et de J.D. Vance les derniers défenseurs du véritable christianisme et les protagonistes de la croisade moderne contre l'islam. Mais justement, qu'arrive-t-il quand Donald Trump, comme à son habitude, se lance dans une de ses logorées indicibles et vulgaires, se laisse flagorner par des prédicateurs évangéliques douteux, ou exhibe des images IA le représentant comme le nouveau Christ? Alors l'on y verra immédiatement la preuve que le président des États-Unis est l'antéchrist, ou en prépare du moins l'avenue. Et bien évidemment, c'est de notoriété publique dans certains milieux que Donald Trump est non seulement profondément impliqué dans les actes pédosataniques du cercle d'Epstein, mais aussi qu'il a vendu son âme au dieu Baal, dont il aurait sciemment placé l'effigie sur l'image générée par l'IA, le représentant comme nouveau Christ. Quel consensus peut-on encore trouver si l'écrasante majorité des interlocuteurs est soit acquise à l'une, soit à l'autre position? Aucune, avec les conséquences inévitables qui s'imposent. L'autre est toujours soit un imbécile fini, soit un traître politique, voire un suppôt du diable. Et j'exagère à peine. Ce sont des débats que je lis quasi journalièrement sur les réseaux ou dont j'entends les échos dans des podcasts opposant désormais non plus, comme dans le bon vieux temps, la gauche et la droite, mais déchirant la droite elle-même. Et c'est bien évidemment loin d'être le seul clivage. Revenir ici au conflit russo-ukrainien est presque devenu anachronique, tant celui-ci semble avoir disparu des médias ces derniers mois, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la fin de l'épopée Covid, due non pas à une quelconque résolution de la prétendue pandémie, mais au fait que l'invasion russe avait simplement détourné l'attention de la pandémie du siècle. Ainsi, ceux qui prétendaient que l'Ukraine de Zelensky était la championne du monde occidental libre, démocratique et libéral, tout comme ceux qui adulaient Vladimir Poutine comme le sauveur de l'Europe éternelle, semblent depuis tout un temps avoir perdu l'intérêt de suivre les exploits de leurs héros respectifs et préfèrent se recycler en spécialistes de la géopolitique du Moyen-Orient ou de théologie musulmane, montrant par là même que notre civilisation a adopté depuis longtemps les caractéristiques attribuées de longue date à la gent féminine. La seule chose que l'on ne peut faire impunément à une fille, c'est de l'ennuyer.
Alors, il vaut mieux que je ne prononce pas sur cette question, mais justement, qu'en est-il du Proche-Orient?
Oui, eh bien, là aussi, le débat devient de plus en plus extrême, et avec des fronts politiques divisant profondément la droite politique et s'alignant parfois de manière fort malaisée, d'ailleurs, sur le débat entre Trumpistes et anti-Trumpistes, tout comme entre pro-russes et atlantistes. Ainsi, d'un côté, nous avons évidemment le débat entre anti-philosémitisme, les uns qui voit non pas seulement l'État d'Israël ou le gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais dans le peuple juif entier, un faiseur de troubles dont la disparition serait une aubaine pour l'histoire humaine, et s'en prête à pactiser avec l'islam pour se débarrasser de l'ennemi commun, que ce soit d'ailleurs sur base d'une interprétation plutôt pseudo-chrétienne de l'histoire, remontant au meurtre de Jésus, ou plutôt d'une interprétation pseudo-païenne, pour qui le christianisme serait le legs empoisonné du judaïsme à la civilisation européenne. Les autres parlent plutôt de civilisation judéo-chrétienne qu'européenne et rappellent à souhait la responsabilité historique que nous portons toujours, même un siècle plus tard, pour l'Holocauste et toutes les formes de collaboration avec le totalitarisme antisémite. Bien évidemment, là aussi, le choix de l'option religieuse joue un rôle important pour justifier et nuancer la prise d'une position pro-israélienne, comme nous le voyons particulièrement dans le sujet épineux de la guerre iranienne. Ainsi, les arguments des amis de la résistance iranienne sont évidents. Résister à Israël et aux États-Unis, c'est à la fois résister au capitalisme débridé, au complot judéo-maçonnique et à la destruction du monde de la tradition, alors que les supporters de l'alliance israélo-américaine voient dans les bombardements de l'Iran et le support à l'hégémonie régionale d'Israël une lutte de libération du peuple iranien, de son joug fondamentaliste, une action de nettoyage proactive contre la prétendue source de financement du terrorisme mondial, une participation à l'éternelle croisade du christianisme contre l'islam, ou, comme le monde vient de l'apprendre ces dernières semaines, une action, pour ainsi dire, catéquantique. Parce qu'en effet, comme je l'avais déjà détaillé il y a quelques semaines, d'ailleurs sur ce plateau, bon nombre d'évangéliques, évangélico-américains font partie de la mouvance des chrétiens sionistes et sont persuadés que seul le support inconditionnel au peuple élu, donc selon eux au peuple juif, et la construction d'un troisième temple à Jérusalem peuvent amener le retour du Messie et la fin des temps. L'hégémonie israélienne du Nil à l'Euphrate étant donc la condition sine qua non de l'avènement du Christ, quiconque s'opposant à cette perspective étant bien évidemment en ligue avec le diable. Que dire en conclusion si ce n'est que nous ne semblons pas seulement de plus en plus gouvernés par des fous, mais aussi que nous ne semblons pas mériter beaucoup mieux de par notre hystérie collective, de plus en plus dangereuse et qui déchire, je le répète, de plus en plus le camp de la droite politique, rendant ainsi toute véritable action concertée pour reprendre enfin le contrôle sur une Europe à la dérive extrêmement difficile, voire impossible. Dès lors, que faire? Ben, en tant que dissident politique, on est presque obligé d'être journalièrement actif sur ces réseaux pour contrer le cordon sanitaire omniprésent, Donc, le bon vieux conseil des parents d'éteindre son appli et de se confronter au monde réel n'est que partiellement avantageux, d'autant plus que ce monde réel est d'ores et déjà refaçonné de manière profonde par les divers combats faisant rage dans le monde virtuel. En éteignant son smartphone, on sauvera sans doute une grande partie de la paix de son âme, ce qui est, je le rappelle, bien évidemment le plus important, mais le combat pour ce monde ne cessera pas pour autant. Résoudre cette question mériterait probablement une prochaine émission, mais en finale de cette chronique, je ne peux que répéter mon mantra inlassable. Au lieu de gaspiller nos énergies, notre santé mentale et la cohésion fragile de notre camp politique en des disputes aussi surréalistes qu'inutiles, dans la configuration actuelle du moins, cessons de mener des guerres de procuration pour l'Iran, pour Israël, pour les États-Unis, pour l'Ukraine ou pour la Russie. Concentrons-nous sur l'immédiat, la construction d'un véritable biotope civilisationnel européen alternatif, la coordination entre forces patriotiques et surtout la reprise en main de notre bonne vieille Europe.
Eh bien, voilà, que vous soyez entendu par tous les hommes de bonne volonté. Merci beaucoup, David Engels, et
Merci
à la semaine
beaucoup et bonne
prochaine.
semaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et l'analyse, c'est avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis.
Bonjour Richard.
Alors, on va parler de l'Iran pour changer. Hein
parce que, je pense qu'on n'a pas fini.
C'est un vrai feuilleton, tout change tout le temps.
Ouais.
Allez-y, votre édito et après on discute.
Non, alors je vais plutôt vous le faire, parce qu'en fait, je relisais mon édito écrit hier, ce matin, et... oui, il y a des choses évidemment dont je vais m'inspirer pour vous parler, mais en fait ça change tellement, il y a tellement de confusion. Et si vous savez, dans cette guerre, il y a aussi, je crois qu'à chaque guerre on améliore, enfin c'est pas qu'on améliore, il y a des choses qui changent. La guerre en Ukraine avait ses codes, ses lois qui n'étaient pas les mêmes que la guerre d'avant. Mais la guerre en Iran, elle a... une espèce de spirale de la communication qui est absolument fascinante. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle s'ajoutant à tout ça, la capacité que les Iraniens ont démontré de fabriquer des petites vidéos avec des Lego, par exemple, vous avez vu, j'imagine, dès qu'il y a une nouvelle production iranienne avec Trump ou Exet en Lego, tout le monde se précipite dessus pour regarder comment les Iraniens se moquent des Américains. Mais ça fait partie de la communication en tant que telle. Et chez Trump, c'est les excès verbaux, la manière de taper du poing sur la table, et puis tout à coup la manière douce de communiquer, de négocier. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on met les choses bout à bout, bah, y a des choses absolument incroyable qui se passe. J'en veux pour preuve le dernier papier d'importance du Wall Street Journal, donc journal extrêmement sérieux, on va dire conservateur, pas farouchement pro-Trump, mais conservateur, on va dire soucieux des marchés, qui raconte qu'en fait, tous les tweets de Trump ne sont écrits que sous l'impulsion de ses humeurs, en fait.
Heureusement que le Wall Street Journal nous le dit, parce qu'on ne s'était pas du tout l'impression que ça donnait. Ben, je plaisante.
Si, bien sûr, mais on pourrait imaginer qu'il y a une tactique. Et d'ailleurs, pas mal d'observateurs essayent de dire, regardez, il entretient un brouillard. Non, quand il dit qu'il va anéantir la civilisation iranienne, il l'écrit tout seul et il le publie tout seul. Il n'y a personne qui vient lui dire, attendez, monsieur le président, c'est peut-être pas là, on est en train de négocier, etc. Mais l'intérêt du papier du Wall Street Journal, qui montre même qu'à un moment, quand les choses sont devenues hyper sérieuses et que les deux pilotes étaient manquants du F-15, les deux pilotes du F-15 abattus étaient manquants et qu'il fallait les chercher, il y avait une sorte de cellule de crise et ils ont dû, en raison de la nervosité du bonhomme, sortir Donald Trump de la pièce, c'est-à-dire parce qu'ils avaient peur qu'ils communiquent et que ça mette en péril l'opération. Donc, ils l'ont sorti physiquement, c'est ce que raconte le Wall Street Journal. Donc, on est avec un président qui ne sait pas on va dire, maîtriser ses humeurs. Et là, le problème, et beaucoup de gens s'en aperçoivent, c'est que à la fois les militaires comme les politiques à Washington se disent que c'est problématique pour la négociation en elle-même. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui commente la négociation alors qu'elle est en cours, ça provoque évidemment dans le camp d'en face des réactions.
Et d'autant qu'il la commente toujours sur un mode schizophrène. C'est-à-dire, d'un côté, il explique que les discussions avancent très bien. De l'autre côté, il explique que, bien sûr, il a déjà prévu de supprimer tous les ponts en Iran.
Absolument, voilà. Et il y a parfois des choses qu'il sort où tout le monde les bras en tombe à pas mal de gens en disant « Mais comment est-ce qu'il peut dire des choses pareilles à ce moment-là » Je vous donne un exemple. Là, ce week-end, il y a eu... donc, il avait réuni une sorte de cabinet pour expliquer ce qui se passerait, enfin pour essayer de comprendre ce qui se passerait, de planifier un petit peu. Les Iraniens ont par la voix d'Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, qu'on voit beaucoup, ont fait cette déclaration comme quoi ils ouvraient le détroit d'Ormuz. Et au lieu de comprendre qu'il s'agissait de la part des Iraniens d'une manière de dire on est prêt à négocier, Donald Trump a dit non, nous, on maintient notre blocus. À Total, le soir même, un autre gardien de la révolution, Abbas Araghchi n'étant pas un gardien de la révolution, venant pas de ce sérail, s'est exprimé, quelqu'un de la marine iranienne, pour expliquer que c'était eux qui avaient le contrôle du détroit et que ils ne seraient pas ouverts par les déclarations d'un fou sur Twitter. Les déclarations de ce gardien de la révolution, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, ne précisent pas si ce fou c'est Donald Trump ou Abbas Araghchi. Du coup, ça a été interprété comme des dissensions au sein de l'appareil politico-sécuritaire iranien. On ne sait pas très bien, en fait. Le problème aussi, c'est que du côté iranien, vous avez aussi un flou artistique et des négociateurs très très fins et des gens qui ont des intérêts, qui ont très bien compris l'or qu'ils ont dans les mains avec Hormuz. Là, ils sont prêts à le vendre très très cher, comme leur uranium. Donc ils savent qu'ils ont dans cette négociation des avantages et beaucoup beaucoup de d'atouts en fait. Ils ont des cartes maîtresses et que ils sont bien décidés à faire payer les Américains. Mais si vous voulez, vous avez donc Donald Trump qui réagit et qui casse un petit peu l'effet exigé. Et immédiatement après, enfin très peu de temps. Très peu de temps après, il dit « ça y est, la négociation est bien partie, j'envoie une équipe à Islamabad ». Au lieu de ne pas le dire et de le faire, et là les Iraniens disent « non, de notre point de vue, ça ne fonctionne pas, si le blocus est maintenu, nous on n'envoie personne à Islamabad ».
Ce matin, on ne sait toujours pas.
On ne sait toujours pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu un autre épisode qui a été beaucoup plus important et sur lequel Trump a pour le coup agi. C'est que les Iraniens disent il n'y aura pas de deuxième round à Islamabad. Nous, ça ne nous intéresse pas si, tant que les frappes sur le Liban d'Israël continuent. Bon, Donald Trump a fait pression sur Netanyahou, lui a interdit de frapper le Liban à nouveau. Et visiblement, Netanyahou a obéi, donc on voit bien... Ça, c'était une première dans l'histoire américaine. Je crois que... Je ne sais pas quand remonte la dernière fois où un président américain a interdit à un premier ministre israélien ou à l'armée israélienne de faire quelque chose. Voilà. Mais Donald Trump l'a écrit et l'a fait. Donc ça, c'était le préambule pour l'acceptation de la négociation. Et puis, il y a cette deuxième chose où Trump dit « nous, on maintient le blocus. Vous ouvrez, nous, on maintient le blocus. » Et paf, du coup, c'est reparti. On est reparti dans une espèce de course, on va dire, et de jeu de dupes. Mais ce qu'il faut noter, et ça c'est important pour nos auditeurs, c'est que derrière, il y a un énorme travail qui est mis en place, en particulier par les Pakistanais, par un homme en particulier qui s'appelle Asim Munir, qui est le maréchal, le commandant en chef de l'armée pakistanaise, hein, c'est le leader du Pakistan en fait, hein. Et Asim Munir, que Trump qualifie de mon maréchal préféré, il aime bien, vous savez, il aime bien les autoritaires, Trump, hein. Et lui, il s'est accoquiné d'Asim Munir, qui est quand même, dans le même temps, a énormément de contacts avec les gardiens de la révolution iranienne traditionnellement. Il est très connecté aussi chez les gardiens, mais la Maison Blanche, il lui est arrivé de très récemment d'aller déjeuner à la Maison Blanche comme ça, sans trop de protocole, voilà. Donc il a ses entrées un peu partout et il a fait un travail d'arrache-pied, c'est-à-dire qu'il est allé à Téhéran, il est allé à Washington, il est allé à Riyad aussi, parce que c'est important de comprendre que l'Arabie Saoudite étant directement concernée par ce qui se passe. Le principal producteur de la région a tissé des liens avec le Pakistan. Il y a des accords militaires pour essayer justement de polisser cette région. C'est très intéressant dans cette guerre, comme vous parlez tout à l'heure, je disais, chaque guerre comporte ses nouveautés. Cette guerre, elle a montré des acteurs régionaux qui disent non, on ne va plus s'en laisser dicter par des superpuissances qui viennent et qui prennent nos territoires pour des terrains d'expérimentation de leur propre politique. Nous, on va faire les choses. Et vous avez l'Égypte aussi, vous avez la Turquie. En fait, vous avez tous ces acteurs régionaux qui viennent et qui disent on veut résoudre cette guerre pour qu'elle n'arrive plus jamais. Ça, c'est le souhait de l'Iran. Et surtout pour que notre région retrouve sa prospérité et son équilibre.
Et son autonomie, c'est parce que c'est ça, on part en dessous.
C'est la première guerre des BRICS, pour moi. C'est la première guerre des BRICS. Pourquoi ? Parce que là, il y a un pays qui n'a pas dit non. Qui n'a pas plié la tête. Vous savez, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, les talibans sont tombés. Quand ils ont envahi l'Irak, Saddam Hussein s'est réfugié dans un trou avant d'être trouvé par l'armée américaine. Ça n'a pas résolu les problèmes, puisque l'insurrection a remonté, mais si vous voulez,
et
là...
Et les talibans sont revenus.
Et les talibans sont revenus, mais là, vous avez un cas incroyable d'un pays qui résiste à deux superpuissances. C'est-à-dire qu'Israël, on peut le qualifier de superpuissance ou d'extension armée des États-Unis, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, le grand Satan et le petit Satan, comme disait l'ayatollah Khomeini, ont attaqué l'Iran et l'Iran a résisté. Ça, c'est unique. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres s'engaillardisent, se disent « Bon, nous, aussi, on veut poser nos conditions, mais on n'a surtout pas envie que ce qui a été décidé par Washington, cette erreur qu'a fait Donald Trump, parce que bon... quand on regarde cette guerre asymétrique proposée par l'Iran...
L'Iran.
Proposée. imposée, si vous voulez, mais proposée dans le sens où c'est sa façon de se défendre.
Oui, c'est ça. Dire, c'est pas l'Iran qui a proposé une guerre.
Non.
L'Iran se défend de manière asymétrique.
Non, mais vous regardez les choses. Hein, donc, elle est... Le vrai problème de cette guerre, c'est que pour arriver aux fins, c'est-à-dire au changement de régime souhaité par Benjamin Netanyahou, et on va dire un jour sur deux souhaité par Trump, il faudrait des troupes au sol. Il faudrait s'engager dans une guerre longue, il faudrait aller jusqu'à Téhéran, il faudrait prendre les centres du pouvoir régionaux, nationaux, et remplacer effectivement... Alors, on ne peut pas faire ça uniquement en éliminant des leaders. Et tout ce qui a été proposé dans cette guerre au départ, notamment par le Mossad, alors le Mossad est, vous savez, auréolé depuis quelques années de faits de gloire, l'histoire des beepers contre le Hezbollah, les décapitations de leaders, la mort de Nasrallah, celle de Khamenei, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a aussi des défauts, ce Mossad, et il avait promis à Benjamin Netanyahou un soulèvement populaire dès les premières bombes, à condition que les principaux chefs de l'Iran soient décapités. Ça ne s'est pas produit, donc le Mossad s'est trompé. Le Mossad avait promis aussi, il avait armé les Kurdes iraniens, les Kurdes irakiens, en disant les Kurdes irakiens vont rentrer. Ça va créer au sein de la minorité kurde importante en Iran un soulèvement et ça va fragiliser le pouvoir. Ça ne s'est absolument pas produit, les Kurdes irakiens n'ont même pas bougé. Donc en fait, ils ont continué à faire tomber des têtes, mais la structure de commandement fonctionne toujours. On est, donc en fait, Trump a beau, face à cette Cette guerre, Trump a beau claironner que militairement, vous savez, il n'arrête pas de le dire, les Iraniens sont à genoux, les infrastructures militaires ont été anéanties, il ne reste presque rien de leur marine, il le répète, de leur aviation. Et en fait, ça ne sert qu'à une chose, tout ça. Ça a prouvé, j'écoutais hier la conférence de presse, non, vendredi, la conférence de presse de Pete Hegseth, et je me suis dit, en fait, on est face à des gens qui n'ont toujours pas compris l'adversaire qui est face à eux. Ils ne l'ont pas compris. C'est-à-dire, en fait, la seule issue que Trump possède aujourd'hui, c'est finalement d'essayer de se tirer de ce guépier le plus vite possible. Mais alors, est-ce qu'il va le faire ou pas?
Pardonnez-moi, Régis, on a l'impression, et votre réponse est riche de développement possible, je voudrais qu'on revienne d'abord sur les options de Trump. Là, avec le blocus pétrolier que Trump met en place, et donc qui est très clairement l'idée que l'Iran ne puisse plus vendre son pétrole, il est en train, effectivement, par exemple, de déclencher l'augmentation massive de pétrole brésilien à la Chine.
Oui.
Donc autrement dit, les BRICS, bien sûr, c'est leur première guerre, mais le Brésil ne vole pas au secours de l'Iran, le Brésil profite de...
Multiplié par deux.
De récupérer, ouais. Voilà, de récupérer le marché du pétrole iranien à destination de la Chine. C'est le Brésil qui est dorénavant le...
Le Brésil a intégré le club des 10 meilleurs, plus gros producteurs mondiaux aujourd'hui. Voilà. Voilà.
Donc, on voit bien qu'il y a le pari de Trump qui est de dire... Voilà, très bien, militairement, je ne vais pas y arriver. Diplomatiquement, ça a l'air d'être mal barré. Économiquement, si j'interdis à l'Iran de vendre le moindre baril, il y a un moment donné où le régime va s'effondrer sur place. Et ça, ce calcul économique-là, on ne peut pas nier qu'il est intelligent.
Oui, on ne peut pas nier qu'il est intelligent, mais le problème, c'est que, c'est, là encore une fois, c'est, il serait intelligent si on était dans un contexte de guerre... classique, mais encore une fois, vous pourrez me dire qu'une guerre classique, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de modèle, mais une guerre traditionnelle, on dira, ou les guerres d'avant, là, on est avec un adversaire, c'est ça que Pete Hegseth, encore plus que Trump, n'a pas compris, qui possède la variable temps. C'est-à-dire que la guerre recommence là, que les États-Unis... qui ont déjà ciblé 13 000 sites en Iran, continuent à le faire. Vous savez, les Iraniens, ça fait 47 ans qu'ils sont sous sanctions. D'ailleurs, c'est un grand enseignement de cette guerre, c'est qu'un pays sous sanctions, condamné à se débrouiller par lui-même, finit par se débrouiller par lui-même, par tout un tas de réseaux de contrebande, aidé par la Chine en sous-main, etc.
Et même d'innovation personnelle, parce que...
Exactement, comme les chaïds, comme le balistique, etc. Donc, c'est-à-dire, ne pouvant compter que sur lui-même, discrètement, l'Iran est devenu une forteresse. Et ça, on n'avait pas estimé à quel point c'était véritable. Sauf peut-être les Israéliens qui disaient ce pays représente un danger, ils veulent faire rayer Israël de la carte. Ils avaient peut-être raison. Peut-être que l'Iran avait cette possibilité-là, encore qu'ils n'étaient pas allés jusqu'à la bombe nucléaire, en raison d'ailleurs d'une fatwa interne du guide qui considérait que le nucléaire militaire, c'était pas islamique, etc. Donc il y avait une fatwa contourné par les gardiens de la révolution, mais il y avait une fatwa. Et donc, en fait, on se rend compte que là, on est face à un adversaire que Trump n'a pas vu, n'a pas imaginé, et qui, aujourd'hui, possède la variable temps, c'est-à-dire en mettant la main sur Hormuz, en mettant la main potentiellement sur Bab al-Mandab, l'Iran a créé un processus, on va dire, de chaotique dans l'économie mondiale, parfaitement prévisible, au vu des échanges et du volume d'échanges pétroliers dans Hormuz et marchandises fret sur Bab al-Mandab. Bab al-Mandab, c'est le container, Hormuz, c'est le tanker. Finalement, on est condamné à regarder un chronomètre qui s'écoule. Alors, avec ce jeu, on pourra y revenir, si vous voulez, sur les bourses, hein, avec les effets d'annonce le vendredi et les reprises de la bourse le lundi. Mais tout ça, ça va pas pouvoir durer éternellement, on le voit bien. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'actualité, quand vous regardez n'importe quelle chaîne d'info en continu, ou même les chaînes classiques TF1, France 2, vous avez toujours le volet Hormuz, donc vous voyez les tankers, etc. Et le sujet suivant, c'est Madame Michu à la pompe qui remplit son... et à qui on dit, oh là là, le diesel est à 2 euros, voilà. Bon, ça, c'est le premier point, c'est le diesel. Mais après, il y a l'augmentation du coût de la vie. On commence à voir ces sujets-là apparaître, avec le prix des marchandises qui monte. Tout ça, c'est lié. Et on s'aperçoit qu'en fait, si ça ne s'arrête pas, ça va empirer. Et donc là, l'Iran possède une arme inégalée. Les États-Unis n'ont pas la même arme. C'est-à-dire, ils peuvent continuer leur blocus, ils peuvent... C'est-à-dire, en fait, ils vont faire quoi? Ils vont faire que les Chinois, ça va embêter les Chinois, parce que les Chinois vont pas pouvoir prendre 80% du pétrole iranien. Vous venez d'apporter une réponse, d'ailleurs, à la question, en expliquant que le Brésil prenait la place. D'autres pays prendront la place. Vous savez, la nature a horreur du vide, et en économie, au niveau des échanges mondiaux, c'est encore plus vrai. Donc... ils vont trouver une manière d'y arriver. Mais ça ne va pas, on va dire, ça va appauvrir l'Iran, qui va encore une fois devoir compter sur lui-même. Imaginer des routes pour faire transiter son pétrole, il y parviendra. Créer des pipelines. Les Chinois ont sans doute... D'abord, les Chinois n'ont pas tellement besoin actuellement du pétrole iranien, parce que vous savez ce qu'ils ont fait, les Chinois? Anticipant ce qui allait arriver, ils ont... sorti un maximum de pétrole depuis le début de la guerre. La sortie du pétrole iranien depuis le début de la guerre de l'île de Karg, elle a été plus importante qu'avant la guerre. Et ça, ce pétrole-là, il va directement chez les Chinois. Donc, ils ont plus de 6 mois de stock, largement de quoi tenir. Si vous voulez, donc les Chinois peuvent tenir... Les Iraniens, ils peuvent tenir indéfiniment, ils ont déjà tenu. On a complètement oublié la guerre en Irak. Pendant 8 ans, les Iraniens n'ont pu compter que sur eux-mêmes. L'Irak était armé par le monde entier, par l'Occident. Nous avons fourni des avions à Saddam Hussein, même des pilotes. Les Américains lui ont fourni quantité de matériel. Et l'Iran a résisté face au monde. Et ça, d'ailleurs, c'est la matrice des gardiens de la révolution. Parce que regardez les gardiens que vous avez aujourd'hui, hein, quand vous prenez un type comme Mohamed Khalibaf, qui était chef de l'armée de l'air iranienne, c'est un gardien. Ils ont tous un peu le même visage et tous un peu le même âge. C'est-à-dire le mien et le vôtre, à peu près. Ils ont leur jeunesse, c'était les années 80. Sauf que nous, à l'époque où nous dansions en boîte de nuit, eux, ils allaient au combat. Et ça a formé les gardiens de la révolution. Donc toute cette génération de gardiens, elle est au pouvoir aujourd'hui et elle a ça dans la tête. Et donc à partir du moment où vous avez résisté à une guerre qui a duré 8 ans, que vous avez été sous sanction depuis 47 ans, vous pouvez très bien continuer. Et c'est un vrai problème. Et l'autre vrai problème est que l'Iran en a encore sous le pied, hein, au niveau du missile balistique, du drone Shahid, etc. Et que les infrastructures, vous croyez que les infrastructures, depuis le cessez-le-feu, il y a 2 semaines, les infrastructures des pays du Golfe, les usines de production, de désalinisation, les usines de production de gaz, les raffineries de pétrole, vous croyez qu'elles ont eu le temps de se camoufler? Pas du tout. Donc ça veut dire que l'Iran peut recommencer. Et si l'Iran juge que les États-Unis lui mettent une pression trop importante, ils iront jusqu'à taper les infrastructures. Et je pense en 2 infrastructures en particulier. 2 pipelines, celui qui délivre le pétrole des Émirats Arabes Unis et celui, le fameux pipeline Est-Ouest en Arabie Saoudite. Pipeline construit à la suite de la guerre Iran-Irak. Au moment où le détroit d'Hormuz avait été perturbé, pas fermé, mais perturbé à l'époque. Il y avait eu une guerre des tankers, il y avait eu des tankers en feu. Eh bien, les Saoudiens avaient décidé de construire ce pipeline qui permet d'acheminer le pétrole des champs pétroliers de l'est de l'Arabie Saoudite jusqu'à la mer Rouge, le port de Yanbu sur la mer Rouge. C'est un pipeline qui fait 1200 km et qui actuellement voit transiter par jour 8 millions de barils de pétrole par jour passent par ce pipeline, c'est-à-dire une production haute intensité très facile à frapper pour les Iraniens. 1200 km, vous pouvez le casser à tout endroit. Vous pouvez casser les raffineries aussi si vous voulez perturber encore plus sur le port de Yanbu. Ça, éventuellement, les Houthis, qui sont pas très loin, peuvent s'en charger. Bref, tout ça montre une extrême vulnérabilité parce que on n'est pas encore passé dans cette guerre dans la phase de destruction de l'outil de production pétrolière ou gazier. Donc on est encore dans une escalade qui peut monter et l'Iran donc peut fermer Bab al-Mandab. Bon, Bab al-Mandab, ça va donc la mer Rouge, ça posera des problèmes, mais on imagine quand même que les armateurs ont déjà imaginé la suite. Les marchandises risquent de coûter plus cher parce qu'il faut transiter par l'Afrique du Sud, on peut plus passer par la mer Rouge. C'est 12% du fret maritime mondial quand même. Donc les bateaux ont été reroutés, mais quelque part, vous n'avez pas besoin, quand vous transitez par l'Afrique du Sud, d'avoir une équipe de sécurité à bord, au cas où. Donc il y a des coûts en moins. Les assurances, la police d'assurance est différente parce qu'il y a moins de risques, on va dire. Voilà. Donc quelque part, le voyage est plus long, mais les coûts sont moins élevés. Mais effectivement, ça met, je sais plus, 10 jours, 15 jours en plus, quoi, pour pouvoir faire le tour. Donc voilà, donc ça complique les choses, mais ça n'est pas encore fini, c'est-à-dire que la mer Rouge, les bateaux passent encore dans la mer Rouge, les outils n'ont pas mis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran a dans sa poche plusieurs cartes supplémentaires pour monter en escalade. Et c'est là où l'impulsivité de Trump pose problème. C'est-à-dire que Trump pense qu'en agissant ainsi, il va obtenir de la part de son adversaire une réaction, en tout cas une capitulation. Or, on n'est plus dans le contexte d'avant-guerre. C'est ça qui est intéressant, c'est que on est avec des négociateurs américains qui s'imaginent qu'ils vont reprendre les mêmes termes qu'avant la guerre, en y ajoutant le détroit d'Hormuz, ça va être les points importants, mais que surtout ils vont réussir à infléchir, à faire céder l'Iran sur le nucléaire. S'ils font céder l'Iran sur le nucléaire, Trump pourra dire j'ai une victoire. Mais à quel prix? Au prix d'une taxe permanente sur le détroit d'Hormuz, au prix d'une levée des sanctions sur l'Iran, au prix d'une reconnaissance de facto d'un régime qui, même si Trump nous dit « Ah, le régime, il a changé », vous avez vu qui représente le régime aujourd'hui?
Vu la manière dont Trump gouverne, le fait que ce soit lui qui nous parle de changement de régime, indépendamment...
Il est peut-être en train de changer à Washington, le régime, plus qu'à Téhéran.
C'est ce que je voulais dire. Ouais. Là, on est... vous avez raison de souligner toutes ces possibilités. Je voudrais qu'on revienne très brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps, sur un point qui, à mon avis, est crucial. C'est l'émergence des champions régionaux. Effectivement, l'Arabie saoudite, en fait, peu à peu, est en train de se dresser, en fait, face à Israël. Israël veut, évidemment, garantir son espace de liberté, veut garantir sa survie, très bien. C'est un État qui a envie de vivre, on ne va pas lui reprocher. Les moyens qu'il emploie pour faire sont évidemment légèrement douteux. Mais l'Arabie saoudite, de son côté, est en passe de devenir une puissance régionale. Et là, elle se retrouve à n'avoir pas du tout choisi le tout militaire, tout sécuritaire israélien. Elle a choisi plutôt le tout commerce. Et le tout commerce avec Israël dans les parages, c'est impossible.
Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que l'Arabie. Enfin,
l'impression que ce pays-là a plus d'ambition, si je veux dire, que le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Plus d'ambition, plus de terrain, plus d'une géographie différente.
Oui, probablement. Un isolement moins facile à mettre en place, des moyens et puis une production plus importante, peut-être. Oui, je pense que là, il y a des paramètres nouveaux, mais aussi, je pense, une vraie... Et ça, c'est pour ça que quand je dis la première guerre des BRICS, parce qu'il y a une vraie prise en main de la part de ces pays de leur propre destin. Et ça, c'est nouveau. On n'appelle plus le gendarme américain ou autrefois le grand frère soviétique. Vous savez, c'était... il y a une révolution, etc. Vite, vite. On prend un parrain occidentaux ou russe, finalement. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est effectivement ce jeu de pays, on va dire, qui se sont affranchis de cette tutelle. Le Pakistan, c'est vraiment l'exemple le plus caractéristique. C'est quand même un pays qui, jusqu'à il y a quelques temps... était connu pour ses relations avec le terrorisme international, son soutien pour les talibans pendant très longtemps, le fait qu'on y ait retrouvé Oussama Ben Laden planqué à Abbottabad, qui était à quelques kilomètres du Saint-Cyr pakistanais, comme si les Pakistanais n'étaient pas au courant que Ben Laden se planquait chez eux. Bref, tout ce bad buzz autour du Pakistan existait. Le Pakistan a su, en quelques années, il avait déjà des liens très forts avec la Chine. Donc l'Iran également a des liens forts avec la Chine, donc c'est une zone targetée par les Chinois depuis très longtemps. Mais les Pakistanais ont aussi des très fortes relations avec les États-Unis. Ils ont su jouer justement du fait pour sortir, émerger et dire « nous, on va régler les choses et on va prendre le taureau par les cornes avec d'autres ». Avec les Turcs, avec les Égyptiens, qui eux attendent aussi l'horreur. Et on voit bien cette émergence de puissance qui potentiellement, en fait, c'est plus les États-Unis qui viennent à la table des négociations en disant « on a gagné l'Iran, vous devez accepter ça ». C'est plus les Iraniens qui disent aux États-Unis « vous avez perdu », c'est les autres qui disent « écoutez, nous, on est directement concernés par votre guerre. On vit dans la région. Vous avez détruit une partie de nos économies. On ne veut pas que cette guerre continue à se répandre. On a envie de vivre, on a envie de continuer, on a envie que nos relations soient solides. Alors, on va faire cette négociation. C'est comme ça qu'il faut la voir, et c'est pour ça que ces pays s'impliquent. Ils ne s'impliquent pas de manière neutre. Ce n'est pas le sultanat d'Oman ou la Suisse. C'est autre chose. C'est des gens qui disent « le destin de nos pays est en jeu ». On va régler cette question parce que ça ne peut pas durer. Et le problème, c'est que si ça ne peut pas durer, eh bien, c'est l'Iran qui gagne. Que l'Iran, comme je vous l'ai dit, pays résilient, pays sous sanctions, pays habitué à se débrouiller par lui-même, il peut tenir. Donald Trump, il ne peut pas tenir.
Voilà, la durée, c'est pour l'Iran. Merci beaucoup, Régis Sommier.
Merci.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
La ligne droite, c'est avec Raphaël Audouard, directeur de la Fondation pour l'Europe, des Patriotes, pardon, pour l'Europe.
Bonjour.
Bonjour Raphaël. Alors, évidemment, quand on parle de Patriotes pour l'Europe, on pense à Viktor Orban. Ça a été généralement interprété comme un affaiblissement des mouvements de droite en Europe. Qu'en pensez-vous ?
En réalité, quand on s'intéresse à l'Europe dans son ensemble, on voit que la plupart des forces patriotes continuent de progresser. En fait, quand on regarde les sondages ou les élections, elles restent les premières forces politiques d'un certain nombre de pays. En Allemagne, désormais, l'AFD a plus de 20% des sondages, la première force. En Italie, Meloni reste aujourd'hui dans les sondages, son parti, Fratelli d'Italia, reste la première force du pays. Et on a même des endroits où les patriotes dépassent les 30% et sont les premiers. C'est le cas en France, c'est le cas en Autriche avec le FPE, en Roumanie, en Tchéquie ou en Flandre. Les forces patriotes restent les premières forces d'opposition dans un grand nombre de pays, en Pologne, aux Pays-Bas par exemple. Et dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal, on voit une très forte progression de ces forces-là avec Vox, avec Chega. Donc quand on regarde l'Europe dans son ensemble, on voit que les forces patriotes continuent globalement de progresser dans la plupart des pays européens.
Alors, est-ce que néanmoins, il y a cet affaiblissement dans un certain nombre de pays. Il y a le fait que Orban n'est plus au pouvoir, même si on peut se demander dans quelle mesure Magyar n'est pas lui-même un patriote. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui explique cet affaiblissement relatif ?
Justement, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand les forces patriotes diminuent, c'est parce que des partis de gauche comme de droite, d'ailleurs, s'emparent de la question migratoire et modifient leur discours pour avoir un discours beaucoup plus critique de l'immigration. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir les médias en fait, se réjouir systématiquement lorsque les forces patriotes sont mises en difficulté de la victoire de forces politiques qui, en réalité, l'emportent parce qu'elles ont modifié leur discours sur cette question. Alors, vous avez cité Peter Maguire en Hongrie, qui a un discours sur l'immigration qui est plus dur que celui de Viktor Orban. Aux Pays-Bas, les médias étaient très heureux de voir une force centriste, démocrate centriste, l'emporter, alors même que cette force l'avait emporté justement parce qu'elle avait un discours beaucoup plus critique de l'immigration. C'est le cas aussi dans toute la gauche nordique, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, où on voit effectivement les sociaux-démocrates continuer à rester à la force du pays et les forces patriotes tendre à stagner, voire à diminuer. Et c'est parce que les sociaux-démocrates dans ces pays-là ont adopté un discours très dur sur les questions d'immigration. Là, ce week-end, en Bulgarie, la gauche vient de remporter les élections parce que justement, ils avaient un discours très dur sur les questions d'immigration, en plus d'être une gauche anti-woke. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est que la diminution de certains partis patriotes, souvent, ne s'y vit pas que la question de l'immigration n'a plus d'importance ou que les peuples ont accepté l'immigration, mais surtout en fait que des partis plus mainstream, de gauche comme de droite, sont emparés de ces questions-là et du coup viennent concurrencer les partis patriotes sur cette question.
Alors, on le voit d'ailleurs au Parlement européen. Depuis que l'immigration n'est plus un sujet tabou, les partis patriotes réussissent à conclure des alliances avec d'autres partis qui n'étaient pas auparavant classés dans leur camp. Est-ce que c'est une tendance qui va s'accélérer, se diffuser ?
Effectivement, au Parlement européen, on voit que parfois il y a des possibilités de créer des majorités alternatives entre le PPE de centre-droit et différents groupes patriotes sur des questions liées à l'immigration ou à l'environnement, par exemple. Ensuite, au niveau national, ça dépend beaucoup de la culture du pays, en fait. C'est-à-dire que dans les systèmes parlementaires, comme les pays nordiques, comme l'Italie, on voit en fait des coalitions souvent d'union des droites qui se forment. C'est beaucoup plus difficile dans d'autres pays où cette culture est moins présente. Dans les pays aussi d'Europe centrale et de l'Est, c'est plus facile pour les partis de gauche ou de droite de s'allier avec des partis patriotes parce que les différences idéologiques sont moins présentes. En réalité, en Europe centrale et en Europe de l'Est, tout le monde est plus ou moins conservateur et tout le monde est plus ou moins patriote. Donc ça dépend beaucoup de la réalité nationale, plus que de l'orientation idéologique, puisqu'il y a des endroits où c'est la gauche qui s'allie avec les forces patriotes, alors que par exemple en France, même la droite le refuse. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a tellement de pays en fait, où c'est le cas, le PPE, donc le grand parti de centre-droit, ne peut plus exclure systématiquement ses membres qui mènent ces alliances-là. En fait, avant, c'était le cas. C'est toujours le cas, plus ou moins, chez les libéraux et les socialistes, où il y a quasiment systématiquement des exclusions ou en tout cas des suspensions quand un parti s'allie localement avec un parti patriote. Mais ce n'est plus le cas au PPE, puisque maintenant, si jamais ils faisaient ça, ils devraient exclure une bonne partie de leurs membres.
Bon, eh bien, merci beaucoup, Raphaël Adouard, pour cette analyse. Et malgré tout, pleine d'espoir, c'est agréable.
Voilà, merci. Tu n'es pas perdu.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour mon cher...
Moi, c'est Richard. Alors, comme moi, Gilles, vous étiez suspendu au résultat de l'élection de Bruno Retailleau. Ça a été un suspense absolument incroyable. Ah, et heureusement, le droit, la vérité et la justice ont triomphé en sa personne.
Alors, comme l'écrit...
Je résume.
Oui, ça, c'est un bon résumé. Alors, comme l'écrit Vincent Trémollet de Villers à l'une du Figaro, le chef a été désigné largement par ses troupes, c'est bien le moins, mais le dilemme shakespearien reste entier pour le parti de Bruno Retailleau, être ou ne pas être. Représenter la droite ou être absorbé par ceux qui prétendent l'incarner. Jordan Bardella sous sa forme bonapartiste, Édouard Philippe sous sa forme orléaniste. Et si l'on s'en tient à la technique électorale, les Républicains semblent condamnés, comme le dit Jean Fourquet, à la vente, à la découpe entre ce qu'est devenu le RN et une forme de macronisme reconditionné. J'aime bien le mot. Et si l'on sous-pèse les stratégies personnelles, le parti mourra sous le poids des grandes rancunes et des petites ambitions. Les pirates d'Astérix qui sabordent rageusement leur propre bateau étaient certainement de droite. Et de ce côté, le Parisien écrit « Pour s'adresser aux élus du macronisme, Bruno Retailleau entend égratigner Philippe comme il a déjà commencé à le faire quand il dit par exemple que le Havre sera rattrapé par le bilan de Macron. Taper sur Philippe, on n'a pas le choix », tranche son équipe qui ajoute « C'est l'histoire du fil que tu dois tendre sans jamais le casser, car il n'est pas plus acquis, tant s'en faut que ces deux-là ne se retrouvent pas un jour. On apprend toujours par le Parisien qu'une cellule diplomatique composée de 6 spécialistes planche sur les dossiers internationaux quand Retailleau, avec des cours, entend essayer d'améliorer son niveau d'anglais.
Eh ben, si c'est pour parler comme Macron, oui, c'est... Voilà. C'est aujourd'hui lundi, donc Jordan Bardella est de retour du Milan et il doit déjeuner avec la direction du MEDEF à son tour, puisque Marine Le Pen l'avait fait.
Exactement, c'est la raison pour laquelle le polytechnicien de 42 ans, François Durvie, a droit à un long portrait d'une page dans les colonnes d'Aujourd'hui en France et du Parisien. Alors l'ex-directeur du fonds d'investissement Autium Capital de Pierre-Édouard Sterrin avait démissionné le 1er avril, c'était pas une blague, pour rejoindre Jordan Bardella et il est désormais chez lui, au RN, qui doit se saisir de sujets comme la productivité ou l'économie de production. Il a confié à Alexandre Sulzer du Parisien que le programme présidentiel du mouvement devra nécessairement être ajusté à la réalité économique avec tous les indicateurs qui se sont dégradés, ajoutant que Jordan Bardella devra rencontrer un maximum de chefs d'entreprise pour lister les normes et impôts qui pèsent sur la production de richesses. Il va demander de construire une solution de simplification administrative avant l'été. On ira négocier avec Bruxelles, assure celui qui vient originellement de milieux souverainistes. On apprend aussi qu'il a mis à sa disposition son manoir de Calvados pour préparer le débat présidentiel de 2022, à racheter avec Pierre-Édouard Sterrin, la villa où résidait Jean-Marie Le Pen à Rueil-Malmaison, se découvrant alors une mission d'ambassadeur du RN auprès du patronat, à commencer par les dirigeants des entreprises du CAC 40, et plusieurs options s'offriraient à François Durvis si le candidat du RN remportait la présidentielle de 2027, et parmi elles, Bercy ou le secrétariat général de l'Élysée. Là où je serai utile, confie l'intéressé.
C'est exactement ce que disait Henri de Castres pendant la campagne de François Fillon. Vous voulez revenir sur la polémique engendrée au lendemain du départ d'Olivier Nora à la tête des éditions Grasset?
Oh là là là, vous avez vu, ça grouille,
mais
ça
oui,
bouffe,
c'est horrible.
Dans toute la presse. Alors, comme vous le savez, plus d'une centaine d'auteurs de la maison, dont Emmanuel Carrère, Georges Chalandon, Virginie Despentes, ont pétitionné dimanche. Alors, certains ont refusé de le faire dans la tribune du dimanche, non seulement pour protester contre ce qu'ils appellent un licenciement abusif, mais aussi pour revendiquer une clause de conscience. Ils ont été rejoints par d'autres écrivains qui publient ailleurs, comme Jean-Philippe Toussaint ou Patrice Franceschi et Guillaume Gallienne. Alors leur credo, nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. Bon, à vrai dire, ces signataires parlent aussi d'un droit à départ indemnisé, je cite, ainsi que la récupération de leurs droits. Alors tout cela me paraît assez confus et irréalisable. Mieux vaut lire en parallèle l'article « Chronique d'une manipulation » signé Pascal Ménadier dans le journal du dimanche, en vente jusqu'à demain. Il écrit ceci. « La gauche germanopratine est en deuil. Elle vient de perdre un de ses plus illustres représentants. Olivier Nora est un intellectuel à la française, comme le système des grandes écoles en produit des dizaines chaque année. Le charme est son métier, les jeux de pouvoir son oxygène. Son univers mental, c'est la gauche libérale, confie un salarié de Grasset qui n'a pas signé la pétition. Politiquement, c'est un strauss-kahnien du 6e arrondissement de Paris qui ressemble à ses amis de toujours, Alain Minc qu'il fréquente depuis le lycée, et surtout Denis Oliven qui vient de prendre le poste de PDG du groupe Editis, le numéro 2 français de l'édition. Alors c'est donc Julliard, Plomb, Nathan, Robert Laffont, Pocket notamment, écartant justement il y a quelques semaines sa directrice générale, Catherine Lucet, pour faire place nette avant son arrivée. Là, il n'y a pas une manifestation. Alors cet article n'a pas plu à Libération, qui se targue de lui répondre ce matin pour dénoncer bien sûr chez Pascal Ménadier, alias Pascal Esric. Vous savez que c'est un ancien rédacteur en chef de la revue Éléments. Alors ils se sont mis à trois journalistes pour calomnier le chef de la rubrique du livre du JDD. Bon, c'est assez navrant et assez pitoyable, j'ai trouvé. Mais Vincent Bolloré a voulu se justifier et a publié aussi dans le JDD hier une tribune dans laquelle il remet les pendules à l'heure. Le 6 juin prochain, écrit-il, la Maison Grasset aura la joie et l'honneur de sortir le nouveau livre de Boualem Sansal. Le dirigeant de Grasset voulait le sortir à la fin de l'année, ce qui était contraire à la volonté de la direction Hachette, qui est le réel propriétaire de Grasset. Et Vincent Bolloré d'expliquer que cela eut lieu sur fond de performances économiques très décevantes, allant jusqu'à donner, malgré cela, la rémunération annuelle d'Olivier Nora passée de 830 000 euros à plus d'un million d'euros, facturée que par moitié par Grasset, le reste étant payé directement par Hachette. Donc, affaire à suivre. Car alors que le Festival du Livre s'est tenu jusqu'à hier au Grand Palais, certains libraires parlaient même de boycott des livres de Grasset. Une aberration totale.
Et oui, alors ce qui est assez fascinant dans cette affaire Nora, c'est que c'est Nora lui-même qui avait décidé d'augmenter son salaire à 1 million d'euros, oui. Avec pour des résultats en baisse en fait.
Oui, exactement. Donc... Ah bah oui, ça rentre en ligne de compte. De toute façon, dans cette histoire, pour moi, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Pour différentes raisons, on n'aura peut-être pas le temps de tout développer, mais en gros, Olivier Nora se savait sur un siège éjectable et il y avait un différent dans cette politique. C'est vrai que sortir le livre de Boualem Sansal en novembre, c'était un petit peu ridicule, en sachant que le livre était prêt. Et moi, si j'avais été éditeur, je l'aurais sorti en effet au mois de juin. Ça laisse une autoroute jusqu'à l'été pour être vendu, en sachant qu'il va vendre sans doute au moins 500 000 exemplaires. Et surtout, il y a les droits, il y a les productions, il y a les traductions à l'étranger. Donc tout ça fait que, voilà, c'est vrai que si Boualem Sansal avait été publié chez Fayard, il n'y aurait pas eu cette tempête. Mais l'idée d'être publié chez Grasset, qui a été le premier éditeur de Proust, ne l'oublions pas, d'Henri de Monterland. Tous les deux passant ensuite chez Gallimard, c'était aussi une sorte de voie royale. Et je trouve que certains auteurs devraient être un peu plus humbles dans leur position, en sachant que de toute façon, toute la rentrée littéraire est programmée au 20 août. Donc tous les auteurs qui ont signé la pétition, il y en a la moitié qui sortent à la rentrée. Donc ça pose des problèmes, on ne peut pas rompre un contrat comme ça.
Voilà, on ne peut pas rompre un contrat comme ça, ils seront quand même obligés de faire la promotion. Surtout, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui vendent mal.
Oui, ah bah bien sûr, de toute façon, ouais. c'est pas des tirages. Vous savez qu'un premier roman, se vend à 800 exemplaires. Hein. Faut pas... Vous savez, moi, quand j'étais chez De Noël, on a quand même publié des premiers romans ou des romans qui marchaient mieux. Généralement, vous savez, les chiffres sont un peu gonflés parce qu'il y a la mise en place. Alors, on confond souvent la mise en place et la vente des livres. Mais quand on fait le bilan...
La mise en place, c'est donc ce que les libraires mettent en rayon.
Oui, mettent en rayon. Ce qu'on appelle les notés au départ, c'est-à-dire les agents commerciaux des maisons font le tour des 3 ou 4 mois avant, ou même 6 mois avant parfois, des libraires, et ils prennent en note, si vous voulez, le nombre de commandes, et en fonction de ça, on évalue le tirage du livre. Évidemment, Boilem Sans Salle, son dernier, il s'est vendu, je crois, à 400 000 exemplaires ou plus, donc évidemment, la mise en place est énorme, et ça permet aussi, si vous voulez, une maison d'édition de publier des jeunes auteurs.
Voilà, on a des vaches à lait et ces vaches à lait permettent ensuite de financer les jeunes pousses. Mais là, dans tous ces auteurs qui quittent Grasset, il y en a plus de 100. Vous connaissiez tous les noms de ceux qui s'en vont?
Je vais pas les révéler ici pour pas les mettre en porte-à-faux, mais j'en ai eu hier au téléphone qui ont refusé de signer signer cette pétition parce que, tout simplement, ils sont engagés pour d'autres livres et qui ne veulent pas mettre en péril, d'une certaine manière, leur engagement, parce qu'en fait, celui qui gagne dans tout ça, c'est Olivier Nora. Parce qu'Olivier Nora, il a eu beaucoup de propositions depuis qu'il est parti. Il va sans doute créer sa propre maison d'édition.
Avec les indemnités.
C'est ce que j'allais dire, avec des indemnités. Donc tout va bien. Et les auteurs, ils ne publient pas tous les ans non plus. Un livre, ça met 2 ou 3 ans avant d'être écrit et d'être publié. Donc tout ça, c'est pour moi un peu une tempête dans un verre d'eau. Parce que quand on fait le compte des maisons de gauche par rapport aux maisons de droite, c'est très simple. Hein. Les maisons de droite, c'est 15%. Hein. Le reste, ce sont des maisons de gauche. Donc, faut pas non plus exagérer.
Oui, on n'a pas l'impression que ça y est, la botte sombre est en train d'écraser la figure des intellectuels en France.
Non, mais en plus, quand vous pensez qu'un éditeur, je pense à Gaston Gallimard, qui a publié autant d'auteurs de gauche que de droite, parce qu'il a publié même des auteurs dits d'extrême droite, comme Lucien Rebatté, par exemple. On s'aperçoit que c'est ça la littérature. On ne demande pas la carte d'un auteur quand il publie un livre. C'est un engagement littéraire au sens propre.
Que ce soit Fayard
qui a été l'éditeur de Solzhenitsyn. Enfin, moi, je peux faire même Plon qui a été éditeur du général de Gaulle, etc. etc. On voit qu'aujourd'hui, on a un peu polarisé de façon idéologique. Voilà. Et Bolloré a remis un peu les pendules à l'heure, même si on est pour ou contre lui.
Et exactement, et rappelons que Gallimard pouvait publier des auteurs chics que la gauche adore parce qu'il dirigeait, Cipolis, Kipolis.
Oui, Kipolis, etc.
C'était la presse de Torchon qui permettait de financer la littérature contemporaine.
Et rappelons que les éditions de Noël sont allées dans le giron de Gallimard après la guerre parce que Robert de Noël avait été accusé de collaboration. Donc, ce qui fait que Céline est passée de Noël, tous les pamphlets antisémites de Céline était publié chez De Noël, et tout ça s'est passé donc dans le giron Gallimard.
Mais c'est quand ça va du côté de la gauche, c'est bien. Mais ils ont gardé les droits, ils ont gardé Céline, et ils ont gardé la maison de Noël. Merci beaucoup, Gilles.
À demain. Et
à demain. Chers amis, il est 9h41, donc c'est le moment de prendre congé sur YouTube et sur X, mais prenez congé juste après avoir fait un petit geste pour nous soutenir. Vous êtes nombreux à nous écouter, vous êtes un peu moins nombreux à nous donner des sous, et pourtant tout ça, ça va ensemble.
Un petit geste en fonction de vos moyens, bien sûr, puisque Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous. C'est à vous de nous aider à poursuivre le chemin en finançant votre radio préférée. Vous pouvez aller sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou envoyer vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous avons des projets à financer, dont un particulier dont nous vous donnerons des nouvelles très 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 prochainement et qui devrait vous réjouir. Voilà, merci d'avance.
Parfait, et d'ici là, on réécoute l'interview de ce matin de Patricia Serinzek qui nous alertait sur les dangers du pass numérique.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Patricia, pardon, excusez-moi, Serinzek, journaliste, qui nous parle du pass numérique. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, ce pass numérique, c'est évidemment une idée européenne géniale d'Ursula von der Leyen qui veut forcer les gens à ne pas regarder ce qu'il ne faut pas voir et notamment restreindre l'accès des mineurs au contenu sensible en ligne. Et c'est un pas de plus dans ce contrôle social que l'Union européenne cherche depuis des années à imposer, d'ailleurs avec un succès plutôt mitigé.
Oui, tout à fait. En fait, là, on passe une nouvelle étape. On a vu jusque-là que la Commission européenne avait adopté certains règlements, comme le DSA, a tenté de faire adopter un second règlement qui est popularisé sous le nom de chat control. Elle a tenté, puisqu'effectivement, ce règlement provisoire n'a pas été adopté. Il en attente d'un règlement définitif. Là, on change de prisme. Hein. Il ne s'agit plus de règlement, il s'agit tout simplement d'un outil. C'est une application. Donc, tout utilisateur devra télécharger, s'il veut pouvoir accéder à des sites dits sensibles, lesquels sites sensibles devront aussi avoir cette application pour pouvoir accepter d'être utilisé. Donc voilà. Après, il n'y a pas d'obligation proprement dite. Hein. C'est là toujours la même question. Hein. C'est comme pour le DSA, on n'oblige pas, mais par contre, on contraint énormément. Alors, les plateformes sont censées, au titre du DSA, protéger les plus vulnérables, dont les jeunes, hein, au titre des activités en ligne sensibles, pornographie, mais pas que. Et donc, là, elle lui donne un moyen. Jusque-là, les plateformes ont toujours dit on n'y arrive pas, on n'a pas trouvé la solution technique. On sait bien que le fait de cliquer sur « j'ai 18 ans et plus » peut être facilement contourné. La Commission européenne dit ben, « on vous fournit l'outil, vous n'avez plus qu'à le télécharger » et ainsi, la question, elle est réglée.
Alors justement, la question n'est pas réglée. La question, elle n'a pas été vite répondue parce que cette technologie dite ZK-proof, Zero Knowledge Proof, en français, preuve à divulgation nulle de connaissances, est censée être une bonne idée. C'est-à-dire, j'ai cette application, cette application prouve que j'ai le bon âge et donc je ne suis pas obligé de divulguer mes données personnelles et donc je peux me connecter à n'importe quoi. Et en fait, on se rend compte que ça part d'une bonne idée, mais comme d'habitude, l'exécution est très mauvaise.
Oui, ça part d'une bonne idée et ça laisse quand même des failles assez béantes. Hein. On parle d'anonymat, effectivement, puisque avec ce système, toutes les données d'identification, votre état civil est censé ne pas... Enfin, il n'est même pas transmis aux plateformes. Alors, c'est une bonne chose. Hein. Les plateformes n'ont pas accès à vos données d'identification. Bon, je ne sais pas si ça les intéresse énormément du moment qu'elles puissent vous tracer, voir votre comportement avec les cookies. À mon avis, il est là peut-être l'essentiel pour elles. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, cette appli est vantée pour être anonyme. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle n'est pas anonyme pour tout le monde, hein, puisque à un moment donné, vous rentrez une pièce d'identité, elle est vérifiée, elle est authentifiée, elle est authentifiée avec une vidéo, une photo que vous avez prise en temps réel. Donc, en fait, il y a bien quelqu'un qui, derrière, contrôle cette preuve d'identité. Donc, l'anonymat, il l'est peut-être pour les plateformes, il ne l'est pas pour celui qui contrôle.
Qui contrôle l'application.
Contrôle l'application, tout à fait, vraisemblablement. Alors là, je crois qu'on n'est pas rentré trop dans les détails, mais il me semble que c'est France Connect sûrement, enfin, chaque État membre mettra en place l'interface, ça sera sûrement France Identité, pas France Connect, qui gérera cette partie-là. Donc, en termes d'anonymat, non, on n'y est pas, non, puisque, bon, évidemment, le contrôle n'est plus délégué aux plateformes, mais il est repris en main par l'État. Sait-on ce que l'État pourrait en faire? Alors, on parle toujours de risque de dérive en cas de, si on avait au pouvoir un État autoritaire, etc. Sans aller jusque-là, on a vu ce que ça a donné lors de la crise Covid, hein, puisqu'on n'était pas avec un État autoritaire, me semble-t-il. Et pour autant, on a eu ce pass Covid avec les QR codes, les attestations, et on voit qu'en situation de crise, en fait, ces outils peuvent être complètement utilisés pour restreindre des libertés. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était une liberté de circulation. Voilà. Là, maintenant, on parle de liberté d'accès, de liberté d'expression, d'information. C'est un pass numérique, quoi.
C'est un pass numérique et effectivement, vous avez raison de le souligner, on se retrouve dans une situation qui est potentiellement dangereuse puisque dans toute l'Union européenne et singulièrement en France, on nous explique que les prochaines élections risquent d'être perturbées, qu'il y a des dangers d'ingérence russe, qu'il y a des dangers d'influence et d'ingérence étrangère. Autrement dit, cette application permettrait en fait de couper l'accès aux réseaux sociaux qui seraient susceptibles d'être totalement influencés, de couper l'accès à des informations qui seraient susceptibles d'être influencées, on va vers un contingentement de l'information et on revient par la fenêtre, ce qui n'a pas réussi à passer par la porte, c'est-à-dire la labellisation de l'information.
Oui, oui, tout à fait. On voit bien que de toute façon, le principal contre-pouvoir, il est sur les réseaux sociaux. S'il n'est pas dans les parlements, ni nationaux, ni européens, il n'est pas vraiment non plus dans les médias, ce sont les réseaux sociaux. D'ailleurs, la meilleure preuve que vous avez pu avoir, c'est que pour cette application, sitôt l'annonce faite, on a vu que dans les médias traditionnels, les médias mainstream reprenaient la communication de la commission, et tout de suite sur les réseaux sociaux, il y avait des internautes pour montrer comment on pouvait hacker ce système et montrer déjà la plus grande preuve qu'on pouvait hacker en moins de 2 minutes cette application. Donc, on voit bien que pour les États membres, pour la Commission européenne, hein, il n'y a pas que la Commission européenne, les États membres sont quand même beaucoup derrière, les réseaux sociaux sont un problème. Après, est-ce que tout ça va pouvoir être mis en œuvre? Ça paraît très douteux, déjà parce que le dispositif a beaucoup de failles. Ces failles ont été dénoncées bien avant l'annonce de la Commission. Hein. Il y avait eu une lettre ouverte de plusieurs centaines de scientifiques hein, qui demandaient un moratoire début mars. Ils avaient pointé les innombrables failles qu'il y avait dans le système. Et ensuite, surtout, au-delà des failles dans le système, puisque finalement, rien n'empêche qu'ils la mettent en route, même si le système n'est pas abouti, parce que tout de suite, la Commission européenne nous dit « c'est un prototype, vous allez voir, en 6 mois, on va vous régler tout ça ». Ce qui est complètement improbable, mais bon, soit, passons. Mais il y a surtout le deuxième obstacle qui va être l'obstacle juridique, tout simplement parce que c'est un système qui est quand même très intrusif, qui rentre complètement en contradiction avec la protection des données, donc avec le RGPD, et surtout avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, difficile de croire qu'il ne va pas y avoir des recours en masse, que le système, même s'il ne passe pas effectivement par une adoption par le Parlement, qui pourrait bloquer le cheminement, notamment qu'il y aura effectivement des recours devant les tribunaux.
Alors, j'ai le plaisir de recevoir Patricia Serrazek pour parler du pass numérique, le dernier hochet européen pour nous asservir. Tout à l'heure, nous parlerons aussi de liberté d'expression avec Philippe Prigent à propos de la loi Adam et de la manière dont Aurore Berger veut lui donner une plus grande extension. Patricia Serrazek, revenons un tout petit peu sur le fait que justement c'est un prototype, mais surtout voilà, en 2 minutes, un pirate informatique a réussi à rentrer dans le système et à modifier l'ensemble des verrous prétendus qui permettaient d'une part de garantir que l'âge est le bon âge et d'autre part donc de ne laisser accéder qu'aux informations réservées entre guillemets aux adultes, voilà, donc à partir de 16 ans et plus si on fait la somme de tout ce que l'Union européenne a mis en place. Donc ce que l'Union européenne nous donne, c'est une application même pas vérolée mais pleine de trous. Comment expliquer que l'Union européenne est à ce point-là avide de mettre en avant le fait que ses techniciens sont nuls, que ses applications sont mauvaises? Pourquoi se précipiter pour mettre en place un outil dont on sait déjà en fait qu'il est défaillant?
C'est difficile à comprendre comme ça. On peut supposer qu'elle a voulu donner des gages un peu à tout le monde, c'est-à-dire aux consommateurs qui quand même réclament un certain niveau de protection, aux GAFAM aussi qui veulent continuer d'avoir une certaine marge de manœuvre, et ce qui fait qu'on a un dispositif qui est au milieu du chemin, quoi, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il prévoit quand même de protéger ou contrôler, hein, selon la façon dont on voit les choses, mais qui permet aussi quand même tout le monde de pouvoir passer au travers. Donc, le comprendre, on a l'impression effectivement qu'elle est prise dans une sorte de compromis. C'est de donner des gages de part et d'autre. Il en reste pas moins qu'il y a quand même cette velléité de contrôle derrière. Et c'est ça qui est peut-être en débat et qui n'est absolument, la question n'est absolument pas posée de manière, en tout cas de manière claire et nette, comme une autre qui est tout aussi importante, qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos libertés en Europe. Hein. Encore une fois, les libertés d'expression, d'information, la liberté de circulation, comme on a vu donc avec le pass sanitaire. On l'a vu aussi d'ailleurs avec un autre pass qui a été mis en place, c'était en Italie lors des derniers JO, hein, puisqu'un pass de circulation avait été mis en place temporairement pour pas accéder à un site. Donc, on voit bien que tout doucement, il y a un nombre de libertés fondamentales qui sont tout doucement rognées, étape par étape. Et cette question de savoir ce qu'on fait dans l'Union européenne, dans les États membres, en France, de nos libertés fondamentales n'est absolument pas questionnée. On en avait discuté, nous, avec un avocat, François Saint-Pierre, hein, pour le citer, qui nous disait qu'en fait, depuis 2016, pas une seule loi n'avait été prise qui contenait le mot « liberté ». Toutes avaient été prises pour restreindre les libertés. Donc, on voit clairement qu'on est dans un contrôle pas encore permanent, mais en tout cas, on a ouvert une porte pour que ce contrôle soit tout doucement généralisé. Alors, pour revenir à cette appli, si on regarde bien dans les documents de la Commission européenne, il y a un document hein, qui explicite un peu l'architecture de l'application, qui dit explicitement que cette appli est très souple et peut complètement être adaptée, c'est-à-dire à un public, là, tout de suite, c'est 16 ans, mais ça peut être 15 ans, ça peut être 13 ans, et ça peut même être 65 ans. Ça peut être aussi pour d'autres catégories, donc on peut tout à fait imaginer que cette appli, un jour, peut être même pas catégorisée, mais effectivement, pourquoi pas, on l'appliquerait sur certains contenus politiques.
Vous avez raison de souligner, c'est dans l'article que vous avez écrit pour l'Éclaireur, une revue en ligne, la Commission européenne le dit clairement, citation de la Commission européenne, la solution est conçue pour être évolutive et s'étendre à d'autres tranches d'âge, par exemple 14 ans et plus ou 65 ans et plus, sous réserve de la disponibilité de modalités d'inscription appropriées. Autrement dit, voilà, on peut décider d'étendre le champ de cette application, et donc, mais comme cette application n'existe que pour permettre l'accès à l'information, ce qu'on étend, c'est en fait la restriction d'un accès libre à l'information.
Tout à fait. Et bon, ça sera sûrement, si c'est présenté effectivement sur d'autres catégories de population comme celles citées dans ce document, bon, évidemment qu'on mettra en avant l'aspect vulnérabilité des personnes. Les plus de 65 ans qui peuvent être plus vulnérables en ligne pour au risque d'arnaque, etc. Mais effectivement, la porte est ouverte. Donc, encore une fois, s'il y a une porte ouverte, tous les experts en cybersécurité le disent, il y a des failles, il y a aussi une disproportion entre ce qu'on est censé combattre, qu'on peut combattre autrement et surtout avec beaucoup moins de risques, et il y a une disproportion entre ça et l'atteinte aux libertés fondamentales. Donc, un peu comme le DSA, le DSA a posé les bases, c'est d'ailleurs le DSA qui peut contraindre les plateformes à mettre en place cette application, ou tout au moins à mettre un autre dispositif pour prouver pour vérifier l'âge. On voit bien qu'en fait, il y a tout un arsenal hein, qui est en train de se mettre en place. Après, jusqu'où ça ira, beaucoup diront bon non, on n'a aucun risque, on est dans un état de droit, etc. Bon, comme je disais tout à l'heure, on l'a vu ce qui s'est passé avec la crise Covid et la gestion donc de la crise sanitaire. On a bien vu qu'il a été très rapide de mettre en place ce dispositif qui a pu être expérimenté. Et en fait, on ne s'est pas trop soucié de savoir si ça posait des questions d'atteinte à la liberté de circulation.
Exactement. Merci beaucoup Patricia Serrazek et j'espère à bientôt sur Radio Courtoisie pour continuer cette enquête passionnante.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il va être bientôt temps de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est classique, évidemment. Si vous avez envie de rester, c'est une très bonne idée. Si vous avez envie de nous soutenir, c'est une idée encore meilleure.
Pour soutenir Radio Courtoisie, vous pouvez par exemple en parler autour de vous, partager nos contenus, comme on dit maintenant, ce ne sont plus des émissions, ce sont des contenus. Nous produisons des contenus. Soutenir.rc.fr pour faire vos dons en ligne. C'est très simple, vous allez sur cette page, donc soutenir.rc.fr. Vous donnez le moyen de paiement, le montant que vous souhaitez nous donner et la régularité, par exemple c'est en une fois ou tous les mois ou tous les trois mois, tous les six mois, ça par contre ça nous aide beaucoup pour avoir une bonne vision sur la trésorerie. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent, alors merci à ceux qui l'écoutent, qui payent déjà et s'il vous plaît faites un geste à ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci d'avance.
Merci Franck, et surtout avec tout ça, on fait de très bonnes émissions, et par exemple aujourd'hui.
Eh bien dans quelques instants, par exemple, Madame de Sévigné, une femme de lettres et d'esprit dans Français Mon Beau Souci, dirigé par Marc Favre des Chalins. À midi, vous pourrez entendre le libre journal de la Résistance de Philippe Nicolardot. Vous avez dit négocier, histoire et actualité de la négociation. 16h populaire, vous avez dit populaire, avec un sujet autour de Sacha Guitry. 16h30, en toute bonne foi, de France Andrieux. 17h culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry. 17h30 rendez-vous avec Pierre-Alexandre Bouclet et son équipe pour le Restons Courtois d'aujourd'hui. 19h30 le libre journal du lundi soir dirigé par François Costantini sur l'actualité au Proche-Orient. Et puis à 21h30 la soirée musicale. Aujourd'hui c'est Stéphane qui nous propose l'œuvre symphonique de Gustave Mahler. Voilà ce qu'on fait avec vos sous.
Et bien, c'est une très bonne chose. Et nous demain on vous parlera de la manière dont les Irlandais se révoltent avec Ian Valery. On vous parlera du canon français avec l'un de ses fondateurs et Frédéric Lemoyle nous parlera du pape. Combien de divisions? C'est la réponse à Trump.
À demain, 7h.